en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Chers auditeurs, chers amis, merci pour votre fidélité envers Canal Academy. Je me présente, Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et professeur émérite à Paris-Sorbonne, où j'ai été membre de l'unité de recherche, ou l'UFR, je ne sais plus comment ça s'appelait, de philosophie, et j'y occupais une chaire de sociologie historique. Ça veut dire que j'avais une triple formation de philosophe, d'historien et de sociologue. Alors, je vous invite, par l'entremise de Canal Academy, à écouter les enregistrements d'un colloque qui s'est tenu en janvier de cette année à la fondation Del Duca de l'Institut et qui portait sur le thème « Guerre et religion ». Ce thème est peut-être à vos yeux un peu insolite et donc je crois indispensable de commencer par vous préciser dans quel cadre ce colloque a été organisé. Il y a 3 ou 4 ans, il est apparu qu'il était possible de soumettre à la Fondation Del Duca, dont le chancelier est le président et le chancelier est membre de mon académie, qu'il aurait été possible de leur soumettre des projets de recherche de longue haleine, enfin qui allaient au-delà du colloque ou de la journée d'études ou de la table ronde. Et j'ai décidé de soumettre un projet dont l'intitulé général était « Guerre et société ». Alors pourquoi m'intéresser à la guerre? Je suis le moins sanguinaire, le moins guerrier des hommes. J'ai fait mon service militaire, mais dans l'intendance, je suis entré comme deuxième classe et je suis sorti comme deuxième classe. C'est vous dire que mon passé guerrier est vraiment très très limité. Non, voici pourquoi je m'intéresse à la guerre depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans. C'est la lecture de Clausewitz, de la guerre, qui a été pour moi un véritable choc intellectuel, en ce sens que j'ai eu le sentiment, et c'est également le sentiment de mon maître Raymond Aron, que c'était le seul livre définitif qui ait jamais été écrit, définitif au sens où tout y est, et de telle manière qu'il est à peu près impossible de bouleverser la problématique de la guerre. Bien entendu, on peut développer indéfiniment, mais les points de départ de la problématique figurent toujours dans ceux de la guerre. Bon, ça ne suffisait pas pour se passionner pour la guerre. Il y a une deuxième raison beaucoup plus profonde, qui est la suivante. Pendant mes études d'histoire, je me destinais à la philosophie, mais comme c'était la philosophie de l'histoire qui m'intéressait, j'ai décidé de passer une agrégation d'histoire. Or, je n'ai bénéficié d'aucun cours, d'aucune leçon, d'aucun propos, jamais, sur la guerre ni sur les armes, comme si on pouvait comprendre les histoires humaines sans tenir compte de ce sujet, ce qui me paraissait complètement absurde. Alors pourquoi cette situation qui a changé depuis, mais c'était comme ça il y a 50 ans, enfin il y a 55 ans maintenant, c'était un tabou, c'était probablement une conséquence lointaine du pacifisme hérité de la Première Guerre mondiale, et donc la guerre était malpropre, donc on n'en parlait pas. Or, on ne comprend rien aux histoires humaines si on ne tient pas compte, du moins sur 10 000 ans ou sur 5 000 ans, de ce facteur fondamental dans le déroulement des aventures humaines. Et donc, pendant toute ma carrière, j'ai toujours gardé en mémoire, et j'ai toujours travaillé, réfléchi, enfin, à ce sujet. J'ai même fait un cours en Sorbonne, en philosophie, sur la guerre, probablement le premier de l'histoire, enfin de la Sorbonne en tout cas, sur la guerre en tant que telle. Et j'ai donc sauté sur l'occasion que me présentait, que m'offrait la Fondation Del Duca, de soumettre un projet qui a été accepté par le comité directeur de cette fondation. Alors, au départ, je prévoyais 2 ans. Finalement, ça a été 3 ans, et ça sera plutôt 4 ans que 3 ans. Voici ce que j'avais en tête et que j'essaye de réaliser. C'est de, non pas de faire quelque chose comme une encyclopédie du sujet, ni une étude exhaustive, ni un état de la question. Autrement dit, il ne s'agissait pas de prendre une position de spécialiste réunissant des spécialistes sur un aspect très pointu du problème de la guerre dans les histoires humaines, mais de montrer que quel que soit le domaine étudié, de près ou de loin, à un moment ou à un autre, on tombait sur le phénomène guerre comme un facteur pouvant expliquer tel développement religieux, politique, économique, technique ou autre, et réciproquement. La guerre est à la fois un facteur fondamental des histoires humaines, et tout ce qui se déroule dans les histoires humaines affecte directement ou indirectement la guerre, et ce depuis aussi haut que remonte la documentation, c'est-à-dire pratiquement sur 5000 ans. La guerre existait avant l'invention de l'écriture, mais on a de traces archéologiques pour simplifier, et ce n'est pas pour simplifier, pour dire le vrai, la guerre naît avec la néolithisation, c'est-à-dire à partir du moment où ça a pu servir à des fins d'enrichissement, de prestige ou de pouvoir. Et c'est pratiquement il y a 10 millénaires avant, on peut certifier sans grand risque de se tromper que la guerre n'existait pas. Autrement dit, ça n'est pas inscrit dans la nature humaine. C'est la mobilisation, si vous voulez, de l'agressivité humaine et des moyens qui permettent, si vous voulez, de la mettre au service de certains objectifs que peuvent s'assigner des groupes humains, essentiellement des groupes politiques. Donc, avec cette idée en tête, j'ai soumis le projet qui consistait, je le répète, à essayer de montrer que la guerre affecte et réciproquement est affectée par tous les domaines d'activité humaine. Et donc j'ai dessiné un programme dès le départ d'une 15aine d'opérations. D'une part, des colloques de 3 jours, donc quelque chose de très lourd, sur des thèmes particulièrement importants. Un premier colloque a eu lieu en 2013, il portait sur guerre et politique. Un deuxième a eu lieu en janvier 2014, qui portait sur guerre et religion. C'est celui que je vous invite à écouter, parce que ça devrait vous intéresser, et puis vous êtes sûr de vous instruire, parce que les personnes qui ont accepté de venir parler sont hautement compétentes sur ces questions. Un troisième aura lieu, qui est programmé déjà, en janvier 2015, sur la guerre civile, et un quatrième en janvier 2015, qui portera sur guerre et histoire, c'est-à-dire la guerre comme dynamique des évolutions, des développements, des déroulements, des histoires humaines dans les économiques, politiques, religieuses et autres. C'est-à-dire de reprendre d'une manière synthétique ce qui aura été exploré dans les événements précédents. Donc ça, ce sont les colloques. Et par ailleurs, ce sont des colloques ouverts, si vous voulez, qui se déroulent à la Fondation Del Duca et où des gens de l'extérieur peuvent venir. Enfin, pas trop, parce que la salle peut contenir entre 70 et 80 personnes. Au-delà, on ne peut plus les accepter. Et d'autre part, ce que j'appelle des journées, alors c'est 2 jours, alors que les colloques sont 3 jours, sur des thèmes plus précis et dont le format adopté est plutôt celui du séminaire. Je réunis une 15aine de spécialistes, toujours à la Fondation Del Duca, mais dans une salle qui contient 15 ou 20 personnes tout au plus. Alors, il y en a déjà eu plusieurs. Il y en a eu un sur les penseurs de la stratégie. Il y en a eu un autre sur la guerre et les arts. Un troisième sur la guerre, l'économie et la fiscalité. un quatrième, j'espère n'en oublier aucun, sur la guerre et la psychologie. On en est là. Alors, en octobre, il y aura deux journées sur les armées. En décembre, c'est toujours deux jours, quand je dis journée, c'est toujours deux jours sur la guerre et l'opinion publique, plus précisément la guerre et les non-guerriers, enfin, donc les civils pour simplifier, mais de toute nature, les enfants, les femmes, les vieillards, enfin, les églises, enfin bon, les non-combattants, si vous voulez. Après quoi, au mois de mars 2015, il y aura une journée sur la guerre et le droit. Puis au mois de mai sur la bataille, au mois de juin, à moins que ce soit l'inverse, sur guerre et géographie. À la rentrée, il restera à étudier, à regarder, alors là ça va, il y en a un sur guerre et santé, et il y en a un qui m'échappe, qui est guerre et technique. Guerre et technique, et je terminerai par guerre et santé. Voilà le programme général. Alors, tous les actes de ces journées et de ces colloques donneront lieu à publication aux éditions Hermann, avec qui j'ai un contrat, si vous voulez. Et le premier volume sortira au mois d'août. Les épreuves sont déjà... nous avons reçu les épreuves et elles sont reparties chez l'éditeur au mois d'août. Donc, ce sera le colloque sur guerre et politique. Et au mois de novembre, un volume sur penseurs de la stratégie. Alors, je dois préciser... Et puis ensuite, bon, il y en a pour un certain nombre d'années. Au total, se fera une collection dont le titre général est « L'homme et la guerre ». J'avais proposé « Guerre et société », mais il y a déjà une collection aux éditions de l'Université de Rennes qui s'appelle ainsi. Donc, on était obligé de trouver un autre titre. Ça fera donc une quinzaine de volumes qui, je le répète, ne sont pas conçus comme une encyclopédie, ni un état des questions, mais comme, comment dire, une sorte d'avertissement. Si on s'intéresse aux affaires humaines et aux aventures humaines, il est indispensable de ne jamais oublier la guerre. Il ne s'agit pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais simplement de saisir de la manière la plus juste et la plus rationnelle possible quelle est sa place dans les aventures humaines. Et une fois qu'on s'est posé la question et qu'on essaye de trouver des réponses, on constate que cette place est tout à fait décisive. Pour moi, j'en suis persuadé depuis très longtemps parce que je suis persuadé depuis plus de 50 ans que le politique est au cœur de la condition humaine et qu'au cœur du politique, il y a la guerre parce que les êtres humains ne sont pas déjà réunis dans une société politique planétaire qui permettrait de mettre en place les dispositifs et les procédures grâce auxquelles on peut régler pacifiquement les conflits, on ne les élimine pas, c'est impossible, nous sommes une espèce querelleuse, enfin, mais on peut trouver des formules pour régler les conflits sans recourir à la violence. Mais entre sociétés politiques, ces dispositifs et ces procédures n'existant pas, tout conflit, même le plus insignifiant, peut toujours dégénérer en conflit violent. Et une fois qu'un conflit violent a éclaté, eh bien, il y a toute une logique qui a été étudiée par Clausewitz et qui peut monter jusqu'aux extrêmes de la lutte à mort sans rapport aucun avec les raisons initiales pour lesquelles ce conflit a éclaté et a été mal géré. Le centenaire de la guerre de 14 est l'occasion de rappeler que c'est un des cas les plus extraordinaires, si vous voulez, de folie guerrière, dont le point de départ est totalement insignifiant. Une querelle balkanique, si j'ose dire. Enfin bon, c'est pas bien de tuer un prince héritier, un archeduc, si vous voulez, mais ça arrive tout de même. Ça a été très mal géré et ça a fait dérailler tout le XXe siècle en conséquence de ce point de départ mal, je répète, mal géré. Alors je dois préciser encore, On peut le dire à propos de guerre et religion, mais cela vaut pour tous les colloques et pour toutes les journées. Je tiens absolument à faire en sorte que toutes les époques soient représentées, au moins toutes, dans la mesure du possible. Donc que ce ne soit pas seulement l'histoire européenne, ou l'histoire qui a commencé en 1789, ou en 1914, ou hier, si vous voulez. Non, c'est toute l'aventure humaine. Et donc, il s'agit, j'ai fait parler déjà, par exemple, mon confrère Jean Guilaine des Inscriptions et Belles Lettres sur la naissance de la guerre. Des sinologues sont venus parler des indianistes, donc sur l'Inde, des arabisants, des antiquisants, des médiévistes, enfin bref, je m'efforce, si vous voulez, d'introduire toutes les aires culturelles et toutes les époques. Je ne dis pas dans chaque événement, parce que c'est tout simplement, les formats sont limités, mais dans l'ensemble, si vous voulez. Et jusqu'ici, je n'ai éprouvé aucune difficulté pour effectivement, à ma grande surprise, je dois le reconnaître, trouver des gens très compétents sur, je ne dirais pas sur n'importe quel thème, ou n'importe quelle ère culturelle, ou n'importe quelle époque, mais enfin, quasiment, il y a des gens qui sont compétents en matière guerrière dans tous les secteurs. C'est assez étonnant, mais ouais, c'est comme ça. Alors guerre et religion. Le rapport entre les deux me paraît évident, il ne l'est pas pour tout le monde. Cela peut se prendre en deux sens. La guerre au service de la religion, ou bien la religion au service de la guerre. Première hypothèse, la guerre au service de la religion, on pense immédiatement aux croisades, au djihadisme actuel. En fait, il y a, ou bien à des millénarismes, par exemple, enfin à des événements religieux qui ont pris une dimension ou une tournure violente et donc guerrière. Il y en a des exemples dans l'histoire, mais c'est plutôt le rapport inverse, si vous voulez, qui est omniprésent pendant des millénaires, à savoir que la religion est en quelque sorte phagocytée et mise au service de la guerre par l'entremise tout simplement des régimes politiques et des souverains qui se font la guerre. Ce sont des régimes politiques dominants pendant les millénaires de la néolithisation, et je dirais jusqu'à l'époque moderne, sont des régimes que j'appelle hiérocratiques, pour simplifier, dont le titulaire du pouvoir se réclame d'un principe transcendant qui assure la légitimité de son pouvoir, qui a à peu près toujours, à l'origine, été conquis par la violence ou par la force. Et donc, la religion est phagocytée par le politique et mise au service de la légitimation du pouvoir politique. Et par ricochet, lorsque le pouvoir politique entre en guerre avec d'autres pouvoirs politiques à l'extérieur, eh bien, la religion est mise au service de la guerre. Alors cela, dès les tout premiers documents à Sumer, à Akkad, à Babylone, si vous voulez, chaque ville avait son dieu, le dieu des armées, si vous voulez, et qui était mobilisé au service de la victoire de la principauté. Et voilà, on trouve cela partout, mais vraiment partout, sur tous les continents, à toutes les époques, je veux dire, à partir du moment où il y a des organes politiques distincts, différenciés, et où le régime politique est devenu ce que j'ai dit, c'est-à-dire hiérocratique. Alors, tout cela ne pose pas trop de problèmes tant chacun a son dieu, si je puis dire. Mais lorsque les ennemis qui se battent se réclament du même dieu, ça devient plus problématique. Or, c'est la situation en Europe à partir de la chute de l'Empire latin, tous les souverains se sont réclamés du christianisme et se sont très allègrement, pendant des siècles jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, entre-massacrés, y compris donc lorsque des régimes démocratiques se sont instaurés. Comment, si vous voulez, justifier la guerre et des guerres extrêmement féroces à certaines époques en se réclamant de la même religion, une religion qui, par ailleurs, une religion de paix et d'amour. Ah ben, les Européens, ça ne leur a jamais posé beaucoup de problèmes. Ils se sont allègrement battus au nom de la vraie religion, de la vraie interprétation, et n'ont pas manqué de chanter des Te Deum lorsqu'ils étaient vainqueurs. Alors, les étrangers ont pris ça avec moins de sérénité lorsque les Chinois sont entrés en contact avec les Européens. Ils ont été fort étonnés. Qu'est-ce que c'est que cette religion de paix et d'amour et des gens qui ne cessent de se battre et de s'entre-massacrer? Donc on a là un exemple tout à fait typique de, comment dire, d'hétérogénéité culturelle à l'occasion de la guerre. Alors je terminerai, je ne vais pas vous détailler. Il y a eu, autant que je me souvienne, 24 ou 25 exposés que je vous laisse le soin de déguster, mais je précise tout de même que cela n'apparaîtra peut-être pas dans ce colloque, mais j'ose espérer que Canal Académie diffusera des journées ou d'autres colloques, tout a été enregistré, si vous voulez, le phénomène guerre, si on veut l'étudier comme un objet de science, si vous voulez, ce qui est mon cas, un objet de la polémologie, enfin c'est pas moi qui ai inventé le mot, a par nature, si vous voulez, trois dimensions qui, bien entendu, se touchent les unes les autres, ont des points de contact, si vous voulez, mais qui sont tout de même, qui ont d'une logique différente. Vous avez la dimension politique, c'est-à-dire la guerre en tant qu'ensemble de phénomènes qui surviennent lorsque deux sociétés politiques entrent en conflit et ne réussissent pas à le régler pacifiquement. Donc c'était la formule célèbre de Clausewitz, la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est très ambigu, enfin. C'est une continuation de la politique, non pas intérieure, à l'extérieur, mais c'est une continuation du politique lorsque deux sociétés politiques ou plus entrent en contact. C'est la dimension que je crois la plus importante et la plus décisive. Mais vous avez une deuxième dimension, c'est l'instrument avec lequel on fait la guerre. Donc tout ce qui touche aux soldats, aux armées, à la conscription, à la stratégie, à l'intendance, à la logistique, enfin bref, tout ce avec quoi on se bat. Et troisième dimension, les opérations, la bataille, les opérations sur le terrain, la guerre en action, si vous voulez. Alors ces trois dimensions sont très sensiblement distinctes et il faut les distinguer. Et dans ces 15 événements que j'organise, je tiens compte de ces trois dimensions et selon tel ou tel thème abordé, c'est plutôt le premier, le deuxième ou le troisième qui apparaît. Je dois dire que mon intérêt portant plutôt, plus exactement mon intérêt, ma conviction étant que le politique est au cœur de la condition humaine, c'est la première dimension qui m'intéresse tout particulièrement. Je ne suis pas général, donc je ne me suis jamais battu sur le terrain, j'ai même jamais en intendance, j'ai jamais eu l'occasion de me battre. Enfin bref, voilà. Je pense avoir à peu près résumé ce projet d'une manière à peu près compréhensible. Donc, toutes les personnes intéressées peuvent, bien entendu, commencer par écouter Canal Académie, qui est toujours recommandable, quel que soit le sujet abordé. Mais j'ajoute que tous les actes de toutes les journées, de tous les colloques seront publiés et que le premier volume sur guerre et politique sortira au mois d'août de cette année, et qu'au total, cela fera une collection assez impressionnante, je le crois, d'une quinzaine de volumes. Merci pour votre attention, et bonne écoute.